On arrive finalement à la fin de cette série et on a vu dimanche dernier que ralentir ne veut pas dire ne rien faire. Non, bien au contraire, ralentir veut dire être sûr de ce que Dieu veut et se mettre en route pour ça. Jésus, dans une de ses dernières prières, il n'a pas dit « Je te remercie parce que j'ai rien fait pendant mes 3 ans de ministère ». Non, il a dit « J'ai terminé le travail que tu m'as ordonné de faire ». Il avait dit ça. Il a dit « Je fais connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée ». Ralentir donc, c'est être sûr de ce que Dieu nous demande de faire avec les dons qu'il nous a donnés et ensuite se mettre en route pour cela. Et ce qu'il demande à faire peut être différent pour chacun selon la période de vie dans laquelle on est aussi. Et on a vu que ralentir, c'est d'abord reconnaître les intentions qu'on a pour se mettre au service. Est-ce que c'est pour prouver notre valeur? Si c'est le cas, si on veut servir pour prouver notre valeur, ça commence déjà d'une manière un peu dangereuse, ce service-là. Et aujourd'hui, on va voir que ralentir, c'est vraiment ralentir. Ça m'impressionne beaucoup la sagesse de Dieu. Depuis Abraham, Dieu a cette idée de former un peuple complètement consacré à lui. Un peuple qui est en relation avec lui, qui veut aimer Dieu, qui veut le découvrir. Un peuple qui veut faire la volonté de Dieu, de suivre ses voies au lieu de son propre cœur. Et donc Dieu devait leur communiquer, déjà dans le désert, d'une manière très claire, les règles de base, l'essentiel. Le début pour pouvoir vivre en relation avec lui et en relation avec les autres. C'était des règles qui allaient clairement les différencier des nations qui étaient autour d'eux. Ça allait les différencier de la société de l'époque. Et d'une manière très didactique, comme on fait avec un enfant, il leur donne les 10 règles de base. C'est comme dans quelques familles que je suis allé les visiter ou dans la salle de classe de Mélina, il y a un petit tableau avec le dessin, ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire dans la maison pour les enfants. Genre à la table. Dans une famille, il y avait « jouer avec la nourriture, ce n'est pas permis, mais laver les mains après le repas, c'est obligatoire. » Et il y a des petites images. Et pour que ça marche, on ne peut pas avoir 20 images avec 20 règles différentes pour un enfant. Ça ne fonctionne pas, ça ne va pas passer. Il faut juste choisir les principales et on les met dans un tableau et on met des dessins et puis l'enfant, il va comprendre. Et puis après, on va ajouter oralement au fil du temps d'autres règles à ces règles de base. Mais de base, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit concis pour que l'enfant comprenne. Sinon, si c'est trop grand, ça ne va pas passer. C'est trop d'informations. L'enfant ne va pas réussir à mémoriser toute cette quantité de règles qu'il y a là. Et donc, Dieu a donné ces fameux 10 commandements, des règles de base. Et quelques-unes, ça nous semble clair pourquoi il a mis. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol. C'est essentiel pour des relations entre les personnes. Mais Dieu a aussi mis un repos comme obligation dans les 10 règles de base. C'est marqué comme ça en Exode. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Et c'est fou. Déjà à l'époque, un repos pour tout le monde qui habitait le territoire. Même le serviteur, même l'étranger, même le bétail. Tout le monde devait se reposer. C'est très surprenant. Non, en plus pour l'époque, je dirais. Pour des tribus nomades qui vivaient dans le désert. Reposez-vous comme règle de base. Comme quelque chose de très essentiel dans les 10 règles de base. C'est incroyable parce que je pense que Dieu savait qu'on allait avoir des problèmes avec le repos. Parce que la liste, c'est « tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Mais quand ça arrive dans le commandement du repos, il dit « n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat ». Il commence comme ça, c'est le seul qui commence de cette manière. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour faire tout le travail que tu as besoin, mais le 7e jour, il est réservé à moi. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Le jour même qu'on met à disposition pour notre repos, ça compte peu. Ça peut être un lundi, un samedi, un dimanche. Ce qui compte, c'est comment on le vit ce jour-là. Quelle attitude on a dans ce jour de repos. Mais bon, dans une grande profession en Suisse, on a même 2 jours de congé par semaine. Est-ce que c'est faux, vu qu'ils demandent de travailler 6 jours par semaine? Non, parce que la Bible disait toutes sortes de travail. Donc, nettoyer la maison, laver la voiture, faire des commissions, réparer quelque chose dans sa maison, ou retoucher un truc dans sa maison, tendre le gazon, payer des factures, laver ses habits à la main quand on n'avait pas de machine à laver. Même étudier pour un examen, si toutes ces choses existaient à l'époque, ça serait considéré du travail aussi. Et c'était aussi interdit de faire dans le jour du repos. Donc un de nos 2 jours de congé, normalement on fait ces choses-là. Et c'est considéré un jour de travail pour la Bible, même si ce n'est pas un jour de travail obligatoire qu'on va dans le bureau ou à quelque part. Mais alors quel est notre péché parfois? Notre péché, c'est de ne pas vivre cette journée, une journée, comme Dieu l'a demandé. Et je vois 2 déviances. Soit on travaille quand même le jour où on décide qu'on allait se reposer, avec toutes sortes de travail, quel que soit le travail. Soit on le prend et on remplit d'activités de loisirs. On se dit qu'il faut profiter, il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on organise des événements familiaux. Et on peut se perdre en oubliant de consacrer au Seigneur ce jour qu'on a décidé que serait notre jour de sabbat. Pour la première déviance de mettre le travail, au Brésil, mes parents, ils faisaient de toute façon pas le nettoyage le dimanche, c'est pour eux c'était le dimanche, le jour du sabbat. On ne pouvait pas étudier si on avait un examen lundi, le dimanche. Il fallait se préparer avant. Il fallait que je me prépare déjà samedi ou vendredi pour un examen que j'aurai lundi, parce que d'étudier, c'est du travail. Et je n'avais pas le droit. Et puis, on n'avait pas le droit d'allumer l'ordinateur. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas juste, c'est toi qui vas travailler à l'ordinateur. Moi, je vais jouer à l'ordinateur. Donc, c'est pour toi que je ne peux pas allumer. Après, elle a été plus flexible. Après, elle a permis qu'on allume l'ordinateur pour jouer. Et pour la deuxième, il faut d'abord dire que c'est possible de consacrer au Seigneur et avoir une sortie en même temps. C'est possible, c'est comme la marche du poste. Je suis reconnaissant pour le membre du poste ou l'officier qui a eu la brillante idée de consacrer une journée à Dieu en marchant. Faire une marche en même temps, c'est brillant, c'est totalement compatible avec le jour du repos que Dieu nous demande de prendre. Mais vous savez très bien qu'il y a des fois où notre journée de sabbat est prise dans le stress. C'est le stress pour se divertir. On se stresse pour aller s'amuser, pour aller se divertir à quelque part. Ma femme connaît très bien cela dans ma personnalité. Moi, j'adore voyager. J'aime beaucoup connaître de nouveaux lieux, faire des activités. Et en plus, c'est moi, normalement, qui organise les vacances chez nous. Et très souvent, elle m'a dit, c'était pas très bien ces vacances-là. Il y avait trop de choses, on était tout le temps en train de courir pour aller ici, pour aller là, se lever tôt, préparer les enfants, aller quelque part. Maintenant, j'essaie un peu de faire un jour avec une activité, un jour tranquille, pour intercaler. Mais c'est pas seulement se reposer le but. Notre jour de congé a un but précis en plus de se reposer. Même 2 buts qu'on va voir aujourd'hui. On vient de lire une partie des 10 commandements dans la version de l'Exode, qui a été écrite quand ils étaient dans le désert. Maintenant, je vais lire dans la version de Deutéronome, qui est quand ils sont sur le point d'entrer sur la terre promise. Et là, ils ne vont plus être nomades, ils vont s'établir. Et Moïse va répéter la loi. Il va répéter ce qu'il avait déjà enseigné avant dans le désert. Et quand il répète les 10 commandements, il explique pourquoi il faut prendre le jour de congé. Mais pourquoi on le prend? En plus du repos, le repos c'était déjà clair avant, mais il dit en plus quelque chose d'autre. « Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. » C'est pour ça que je dis que je suis déjà dans l'erreur si ma femme dit qu'elle n'a pas pu se reposer pendant les vacances. Probablement ni mes enfants, si je suis tout le temps dans la course pour faire des trucs. Je suis dans l'erreur de planifier toutes ces activités parce que le texte dit que nous-mêmes et toutes ces personnes doivent pouvoir se reposer. Hein. Donc nous, les hommes et les femmes qui avaient reçu la loi, et toutes ces autres personnes, nos enfants, nos employés, les étrangers, tout le monde devait pouvoir se reposer. Donc stresser les autres et puis ne pas les laisser reposer, c'est d'une certaine manière être en faux avec un de ces commandements de base. Mais ça va encore plus loin. Cette partie qu'on a lue est basiquement identique à Exode. Mais Deutéronome complète avec ça. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer le repos du sabbat. » Donc là, il explique pourquoi. Il y a déjà le se reposer, oui, c'était un des objectifs, mais c'est aussi se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Tu prendras un jour par semaine pour te reposer, et dans ce jour, tu te souviendras des choses que j'ai faites par ma force irrésistible. C'est ça, consacrer notre journée au Seigneur. C'est regarder en arrière et dire, merci parce que tu m'as appelé. Merci parce que tu as pris et pardonné tous les poids de mes anciens péchés. J'ai plus ces poids sur mes épaules. Ma conscience n'est plus en train de me châtier avec des accusations, avec de la condamnation, comme si j'étais un esclave de ma conscience. Non, tu m'as libéré de cette sorte d'esclavage. Je te remercie pour cela. Et ça vaut aussi pour des vacances. Vous allez me dire, mais les Israéliens n'avaient pas de vacances. Tu ne peux pas retirer des objectifs de vacances de la Bible. En fait, je dirais si. Les Israélites n'avaient pas de vacances dans le sens où on comprend maintenant, genre un mois payé, mais ils avaient plusieurs fêtes, et quelques-unes de ces fêtes étaient placées, duraient une semaine, étaient placées des fériés au début et à la fin d'une semaine de fêtes. Par exemple, la fête des pains sans levain durait une semaine, et le premier et le septième jour étaient des congés obligatoires. Il y avait la fête des tentes, qui durait aussi une semaine, et le premier et le septième jour étaient congés. En plus, dans la fête des tentes, ça durait une semaine, ils sortaient de leur maison, ils allaient ailleurs pour dormir sous tente, donc c'est du camping. Alors, non, ils n'avaient pas vraiment de vacances comme nous, oui. Mais ce sont des fêtes avec des jours de repos. Et Jésus, il a dit qu'il était venu pour accomplir le but de la loi. Ce n'était pas pour suivre la loi à la lettre, il était venu pour accomplir l'objectif de la loi. Quel était le but de la loi? Je suis venu pour accomplir ça. Pas nécessairement pour regarder, ah, ça j'ai suivi la loi, ça j'ai suivi à la lettre, ça pas. C'est un peu ça qu'ils reprochaient chez les pharisiens. Ils suivaient la loi à la lettre, mais ils n'avaient pas compris le but de la loi. Et puis ils n'accomplissaient pas ce but-là, l'objectif. Donc c'est pour ça qu'il dit que je peux guérir le jour du sabbat. Parce que imaginez, ça allait donner pour cette personne du repos. Et puis ils allaient se rappeler pour toute leur vie que le jour du repos, ils étaient esclaves d'une maladie et Dieu les a libérés par sa main puissante. Qu'est-ce qui est différent d'atteindre l'objectif de la loi que ça, hein? Tu es prisonnier d'une maladie, donc tu reçois du repos le jour du sabbat et en plus tu vas te rappeler toute ta vie, j'étais esclave d'une maladie, Dieu m'a libéré. Tous les sabbats, ils allaient atteindre l'objectif du sabbat. Ils allaient remercier Dieu, merci. Tu m'as guéri, tu m'as délivré d'un esclavage physique. Ça a atteint le but du sabbat. Donc, quel était l'objectif de ces repos? C'était de se rappeler de ce que Dieu a fait et remercier. C'est le cas pour ces deux fêtes que je viens de citer. Il y avait aussi la fête de moisson pour remercier pour les premières récoltes, ou la fête de Pentecôte pour remercier pour le blé. Et donc, pour nos vacances, c'est aussi s'arrêter, regarder en arrière et pouvoir dire des choses comme... Merci Seigneur pour toutes ces choses que toi, tu as fait. Merci parce que beaucoup de choses dans mon travail, c'est grâce à toi. La santé que j'ai pour travailler, l'intelligence que tu m'as donnée pour apprendre ces choses de mon métier, un certain talent dans ce domaine, le grain qui pousse dans la terre, d'une manière miraculeuse. La solution pour un des problèmes que j'ai vécu, des clients qui sont apparus, que je n'ai même pas cherché, puis ils étaient là. Toutes ces choses sont venues de toi finalement. Merci. C'est s'arrêter pour dire merci. Les parents qui s'occupent de la maison peuvent dire ce verset des psaumes. Je reconnais, Dieu, que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si tu bénis pas ma maison, en vain je me donne la peine pour l'éducation de mes enfants, pour l'organisation de la maison. Merci parce que l'œuvre de mes mains a été bénie par toi. C'est s'arrêter pour remercier. Et peut-être pour le peuple, ça sonnait insensé d'ordonner du repos dans une société qui allait survivre de l'agriculture et du bétail. Ils n'avaient pas une paye garantie, hein, comme certaines professions aujourd'hui. Demandez à Irène et Pierre si c'est facile de s'arrêter quand ils sont en train de voir un beau jour de soleil où ils peuvent travailler. Et donc je pense que derrière cet ordre de s'arrêter, il y a principalement quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui demande « Est-ce que tu me fais confiance ?» On parlait sur ça avec Clarissa, et surtout de s'arrêter dans notre jour de repos quand il y a des choses dans la maison qui n'ont pas encore été organisées comme elle le voudrait. S'il y a des choses qui ont été encore à faire, et puis on arrive le jour du repos. Et puis j'ai dit à cette phrase, s'arrêter en fait c'est faire confiance. Elle m'a corrigé, elle a dit non Thierry, s'arrêter c'est vraiment faire confiance. Elle a très fortement souligné ce mot, vraiment, dans sa phrase en portugais. Ralentir c'est faire confiance. Il y a un psalmiste qui a compris cette notion du repos. Peut-être qu'il a même écrit ce psaume au camping. Il a écrit comme ça. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si la montagne s'écroule au fond des mers, si les flots grandes bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Pause. C'est vraiment écrit pause. Hein? Mais bien sûr, c'est la pause pour la musique. Elle avait été écrite pour être chantée. Donc, c'était une pause musicale. Mais je me dis qu'on peut aussi dire que c'est la pause hope, comme on a parlé la semaine dernière, ou la pause du sabbat. Parce qu'il est en train de se rappeler de ce qui Dieu est dans ses premiers vers. Il dit « Dieu est ça ». Dieu, il est un abri sûr. Donc, il repense à ça. Il se rappelle que Dieu est un abri sûr lors de la détresse. Est-ce que je crois suffisamment pour laisser mon bétail un jour de repos et adorer le Seigneur? Et il continue. Mais, une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. L'auteur parla de Jérusalem, de sa ville, de l'endroit où est sa maison. Il dit, Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas. Dieu protège ma vie, je suis en sécurité. Le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. Des pays rugissent, des royaumes tremblent. Dieu élève la voix et la terre disparaît. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Encore une fois, se rappeler qui Dieu est pour notre maison, pour notre vie. Et maintenant, dans les prochains vers, il va peut-être se rappeler de la première page des journaux de la semaine. Il va commenter ce que Dieu a fait. Et il dit, venez voir ce que le Seigneur a fait. Les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met feu aux boucliers. Des conflits qui se sont arrêtés grâce à Dieu. Et peut-être pas seulement des conflits armés, mais des conflits interpersonnels aussi. Et il arrive au point culminant de son poème et il dit à ceux qui ont fait les conflits, mais je pense qu'il le dit aussi à nous-mêmes, il dit « Arrêtez !» crie-t-il. et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Arrêtez pour savoir qu'il est Dieu, pour reconnaître qu'il est Dieu. C'est lui qui domine toutes les choses. Oui, on veut tout contrôler. Avec les petites choses qu'on peut contrôler, qu'on maîtrise, on se sent fier. On veut quand même pouvoir avoir un petit peu le sentiment d'orgueil de dire « c'est moi qui ai réussi ça ». J'ai travaillé dur, j'ai réussi. Puis là, il dit, c'est lui qui domine les nations. C'est lui qui domine la terre. C'est lui qui produit des fruits. Il termine, il répète un vers qu'il a déjà écrit. Il dit, le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Pause. On va prier. Merci Seigneur pour cette sagesse d'ordonner du repos dans des règles de base. Seigneur, dans le résumé peut-être que les enfants d'Israël devaient comprendre depuis le début. Et merci pour ces trois objectifs qui rend service à nous et nous font adorer. De se reposer pour notre propre bien-être, de se rappeler des choses que tu as faites par le passé et ensuite de te faire confiance. Je te demande que nos jours de congé, nos vacances soient pris dans cette attitude d'adoration aussi. Ne sois pas juste rempli d'activités, mais que même dans les activités qu'on choisit de faire, on puisse avoir cette reconnaissance, cette adoration envers toi. Amen.